Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêtant, commanda de le lui amener. Quand il fut prêt, lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, que je vois. Et Jésus lui dit, vois, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et aussitôt, il lui et il se mit à le suivre en glorifiant Dieu. Et tout le peuple à cette vue célébra les louanges de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle de Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Texte ce jour nous met en face de deux sortes de souffrances. L'une qui est l'effet de la persécution, sous diverses formes, et l'autre qui est l'occasion d'une intervention divine pour une guérison. Alors on peut associer à ces deux formes cette grande sainte franciscaine dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, Sainte Isabelle de Hongrie, qui est la patronne du tiers ordre franciscain, dans une vie très courte, mariée à 14 ans, morte à 24 ans, 231. Son mari s'aimait beaucoup, mais c'était le landgrave de Thuringe, et il a voulu partir, il était très croyant, il a voulu partir à la croisade avec Frédéric II. Et il est mort très tôt, même avant de partir en Terre Sainte en réalité. Alors elle s'est retrouvée veuve avec trois enfants, et elle a été chassée par son beau-frère de la forteresse de Marbourg, qui était la capitale de la Thuringe. Et à ce moment-là, elle a erré de lieu en lieu jusqu'à temps qu'elle trouve un lieu où s'installer. Mais toujours, tout le long du chemin, déjà, elle va faire ce qu'elle avait déjà fait tout au long de son temps dans la forteresse, dans la capitale de la Thuringe. Elle s'occupait énormément des pauvres. Et elle s'occupait tellement des pauvres que ça finissait par se voir. Et même son mari l'a vu un jour, il l'a appris et puis il l'a rencontré. Elle avait son tablier plein de pain. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu portes là? Elle a ouvert le tablier. Et ce qu'on nous rapporte, c'est que ça n'était que des roses rouges et blanches qu'il y avait dans le tablier. Un miracle qui est très connu et qui a certainement participé à sa canonisation, puisqu'elle a été canonisée 4 ans après sa mort par le pape Grégoire IX, le cardinal Hugolin. Et bien sûr, elle a été déclarée rapidement patronne, puisqu'elle a fondé en fait en quelque sorte le tiers ordre séculier et régulier, les deux, en Allemagne, mais ça s'est évidemment répandu très rapidement partout. Nous avons eu un diacre qui est mort il y a quelques années dans notre diocèse, qui était le descendant du le premier diacre italien qui avait participé au tiers ordre. Le Cassé, il s'appelle. Voilà. Bon, alors, ben voilà, donc, une très grande sainte. Si vous voulez en savoir plus, il y a une très très belle catéchèse du pape Benoît XVI sur Élisabeth de Hongrie, également Élisabeth de Thuringe. Alors, pour les textes, revenir aux textes d'aujourd'hui, eh bien, le premier texte qu'on a vu, c'est le texte des martyrs d'Israël, c'est-à-dire c'est le début de la persécution du peuple juif par, enfin, de ceux qui dans le peuple juif sont restés fidèles, par Antiochus Épiphane, le dernier des empereurs, enfin, pas des empereurs, des rois séleucides, c'est l'un des successeurs d'Alexandre le Grand. Et cet homme était un peu déplacé, mais en même temps il était très efficace, et donc il a voulu imposer au peuple d'Israël, avec le soutien d'un certain nombre de personnes qui trouvaient que c'était commode, eh bien, toutes les règles païennes. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment qu'on se prosterne devant les idoles, entendu. Alors, on a profané le Shabbat, on a mangé des aliments impurs, on a fait tout ce qui était contraire à la loi, et même a été érigé sur l'autel de Jérusalem l'abomination de la désolation, vous avez dit le texte, nous l'avons entendu. Alors, contre cette persécution, se sont levés des gens courageux, en particulier la famille des Maccabées, Matathias, Judas Maccabée, etc. Et puis, tous ceux qui, évidemment, essayaient de vivre selon la loi, selon la loi mosaïque, eh bien, qui avaient possédé un exemplaire de la Torah, de la loi, eh bien, ils se sont retrouvés mis à mort. On brûlait leurs livres, on les mettait à mort, on a entendu tout cela tout à l'heure. Voilà. Et donc, on comprend que ces martyrs, Jésus s'en souvenait lorsqu'il parlait des persécutions, comme nous l'avons entendu, hier dans l'Évangile, il se souvenait de toutes ces persécutions qu'avait déjà subies le peuple juif dans le passé. On a commencé par l'exil à Babylone, etc. Donc, la persécution a fait partie de la vie du peuple de l'Alliance pendant des siècles. Et évidemment, elle fait partie aussi de la vie du peuple de la Nouvelle Alliance. Alors, il y a ensuite un épisode bien connu, épisode de l'Évangile les plus connus, c'est-à-dire l'épisode de l'aveugle de Jéricho, Bartimée. Et Bartimée, il y a que Saint Marc qui nous dit qu'il s'appelle Bartimée. Luc ne le dit pas, et pour Matthieu, lui, il raconte que c'est la guérison de deux aveugles. Voilà. Mais en tout cas, ça a toujours la même structure, c'est-à-dire que, si on lit Saint Luc, Jésus est sur le chemin de Jérusalem. Il vient de dire à ses disciples, montons à Jérusalem. Et il s'agissait vraiment de monter, puisque Jéricho est à 300 mètres au-dessus du niveau de la Méditerranée, tandis que Jérusalem est à 770 mètres au-dessus de la Méditerranée. Donc c'est vraiment une ascension. Et c'est une ascension aussi vers la croix, dans le Golgotha. Voilà. Alors, nous voyons que, et en plus, Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va être mis à mort, qu'il va être persécuté, qu'il va être mis à mort, mais que le troisième jour, il ressuscitera. Donc, il était vraiment dans la connaissance parfaite qu'il allait souffrir. Il allait souffrir. Et néanmoins, on le voit, là, il est ému de compassion par cet aveugle. Il est ému de sa compassion, parce que d'abord, l'aveugle, lui, par définition, ne voit pas. Il ne peut se repérer que par le bruit que fait la foule. Donc la foule fait du bruit, une foule immense qui suit Jésus. Et alors, lui, il veut savoir de quoi il s'agit. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Alors là, aussitôt, et c'est ça qui est extraordinaire, il a le réflexe de conférer à Jésus un titre messianique, fils de David. Le Messie, ça allait être le fils de David. Donc il dit, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et les disciples essayent de le faire taire, parce qu'ils gênent. Mais Jésus n'est pas du même avis. Il leur demande que cet homme vienne vers lui. Alors évidemment, il bondit, il se lève, il est tout heureux de venir à la rencontre de ce Jésus dont il a beaucoup entendu parler. Et voici que Jésus, comme il l'a toujours fait pour toutes les guérisons et miracles, il lui demande ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que tu veux ? Évidemment, il est évident que Jésus sait très bien ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'un aveugle peut vouloir sinon voir ? Donc, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. Alors, dans les textes, il y a une petite variante, dans les textes des autres synoptiques, pour les deux aveugles, il est dit que Jésus toucha leurs yeux. Ils sont guéris par le fait que Jésus touche leurs yeux. Les autres, chez Saint-Marc et Saint-Luc, ça n'est pas le cas. Il est guéri par la foi qu'il a mise dans la puissance du Seigneur, de l'envoyé de Dieu, du Fils de David, comme il le dit. Et alors, ce qui est frappant, c'est que à ce moment-là, il se met à le suivre. Et ça, les trois textes qui racontent la guérison de l'aveugle ou des aveugles disent tous qu'aussitôt ils se mettent à suivre Jésus. Aussitôt qu'ils ont été guéris, ils suivent Jésus. Et puis la foule est absolument émerveillée. Et donc, les exégètes disent que à ce moment-là, il y a une double guérison, on peut dire. Il y a le fait que ces hommes sont guéris, mais il y a aussi le fait que la foule est constituée en peuple fidèle à Dieu pour ce moment-là. Ça ne va pas être pareil quand il va rentrer à Jérusalem. Si, quand il va rentrer à Jérusalem, ça sera pareil. Hein, béni soit celui qui vient, etc. Mais ensuite, eh bien évidemment, la foule va, enfin, une partie de la foule en tout cas, va s'associer à la condamnation à mort du Seigneur Jésus. Alors ce texte aussi a été la source, je pense, Jean-Claude pourrait nous le dire un peu mieux que moi, il a été la source d'une longue tradition dans l'histoire de l'Église, à partir des terres du désert, la tradition hésychaste, où on implore sans cesse, certains qui ont l'habitude de fonctionner la respiration, « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Et le fait de répéter sans cesse le nom de Jésus a une puissance qu'on n'imagine pas, on ne se rend pas compte. Mais le nom de Jésus, c'est un nom qui sauve. Et le simple fait de dire « Yeshua, sauve-moi », eh bien déjà, on est sauvé, qu'on le voit concrètement ou non. Le nom de Jésus, il n'y a pas d'autre nom, comme on le rappelait hier, de Jean et Pierre devant le Sénédrin, il n'y a pas d'autre nom sur la terre qui puisse nous sauver. Alors bénissons Dieu qui nous a sauvés en nous envoyant, le Père du ciel qui nous a sauvés en envoyant son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous sauver. Et bénissons aussi le Seigneur qui nous a donné son Saint-Esprit et nous permet, dans la lumière, de voir la lumière. Amen.